Le feuilleton des scènes d'Avignon. Serge Barbuccia, Sébastien Benedetto, Gérard Gélas, Alain Timard, Gérard Ventadjoli racontent leur histoire et celle de leur théâtre. Une conversation avec Michel Flandrin.
Les scènes d'Avignon, ce sont des directeurs de théâtre qui ont créé leur propre théâtre. Ici, nous sommes au Théâtre du Balcon, qui est une ancienne cave à vin, c'est ma mémoire.
Exactement.
Qui a été aménagée au fil des années par Serge Barbuccia.
Il y a encore l'odeur.
Le Théâtre du Chêne Noir, c'est une ancienne chapelle. Le Théâtre des Carmes, c'est un ancien garage, je crois. Hein.
Pour les bureaux devant, mais sinon, c'était la salle paroissiale.
Oui, c'est la salle paroissiale. Le Théâtre du Chien qui fume,
c'est une fabrique de Garance.
Une fabrique de Garance. Et le Théâtre d'Elle, c'était une imprimerie, non ?
Imprimerie, et plus largement, c'était le cloître Saint-Éclair, 14e siècle.
Alors, on est dans les années 70-80. Vous faites du théâtre, vous êtes des professionnels. À quel moment, les uns et les autres, vous vous êtes dit, il faut qu'on ait notre maison où on puisse travailler, où on puisse jouer? Je vais commencer par Gérard Gélas, puisque l'histoire de la création du Théâtre du Chêne Noir, on en a beaucoup parlé, notamment autour de Daniel Auteuil, qui a participé à la construction du théâtre et qui n'y a jamais joué.
Oui, enfin là, c'était à Villeneuve-les-Avignon, ouais. Le premier petit théâtre qui a été interdit et qui a été muré par les forces de police. Donc, on n'a jamais fait de théâtre là-dedans. Dès d'avoir un théâtre, elle m'est venue à Rome. Après l'interdiction, on vivait en communauté, à Séguré, dans une ferme plus ou moins abandonnée, qu'on louait pour 6 francs de sous. Et on était très embêtés par la police, avec des perquisitions constantes, avec beaucoup de brimades. C'était très difficile. Ça se faisait à travers moi, puisque j'étais un militant anarchiste, membre du 22 mars à Icône Bendit, etc. Et donc, on me faisait payer un petit peu mes exploits politiques. On a décidé de se barrer en Italie, c'était pas un hasard. Et on était invités à Rome, c'était notre première tournée, au Circolo della Fede, le cercle de la foi, il faut le faire, qui était dans la banlieue de Rome et qui était dirigé par Giancarlo Nanni, qui est devenu un très grand metteur en scène d'opéra aujourd'hui. Et c'était un lieu complètement improbable dans lequel toute l'intelligentsia romaine, Fellini venait, Gassman, se venait tous voir l'interdit, celui qui avait été interdit à Avignon. On vivotait là à Rome dans ce tout petit théâtre parce que bon, toutes ces célébrités venaient nous voir, mais c'est pas ce qui nous faisait manger. Hein. Un jour vient me voir un monsieur qui se présente comme le Festival de Palerme et qui me dit qu'il aimerait que je vienne à Palerme avec la troupe pour faire ce que j'avais fait à Avignon, c'est-à-dire contester le festival, foutre le bordel pour faire venir la presse internationale. Vraiment, je l'ai regardé, j'étais stupéfait. Vous imaginez quoi, c'est effrayant parce que nous on était là que parce qu'on fuyait la répression en France. Hein. Parce qu'il y a la France dont parle Alain et j'adhère totalement à ce que tu dis Alain, hein. Mais il y avait aussi notre France. Hein. C'était
absolument,
chaud. Hein.
Absolument.
Pour des gens comme moi, c'était pas facile. Hein.
Mais nous n'étions pas de cette France-là.
Voilà, et très répressif. Donc, c'était insensé qu'on me propose ça, parce que moi, je portais mon interdiction de la paillasse au CNU comme une blessure. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir? Je suis à Rome, là, où je joue. Bien sûr que j'admirais ces gens. Je suis fou de Fellini. J'étais heureux qu'ils viennent voir mon travail et tous les autres. Et même Pierre Clementi, qui n'était pas italien, mais qui vivait à Rome et qui montait sur scène complètement défoncé en se prenant pour le Christ et en se mettant nu. Ma foi, c'était l'époque. Mais ce n'est pas ce qui nous intéressait, nous. J'étais plutôt un enfant de Villard, quoi, s'il faut aller vite. Alors, devant un plat de spaghetti, le soir, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Si moi, j'arrête. Ici, c'est terminé, je ne veux plus. On rentre à Avignon, on trouve un local et on va s'installer là. Et là, on va essayer de trouver un public, si possible, qui ne va pas au théâtre, un public populaire. C'était facile parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de contrat. On est rentré en France avec notre vieux Citroën, camion pourri, que j'aimais beaucoup. Et on a trouvé rue Saint-Joseph. Un tout petit lieu qui est devenu le premier théâtre du Chêne Noir. Là, on s'est vraiment installé théâtralement dans la ville d'Avignon et c'était en 1969.
Les scènes d'Avignon, le feuilleton.
Sébastien Benedetto, vous êtes né après le Théâtre des Carmes. Lorsque votre père est parti, il est quasiment mort sur scène. Hein. Il avait joué le soir et il est mort dans la nuit. Donc tout à coup, avec Andriev, votre sœur, et également Frances, la compagne d'André, vous êtes retrouvé avec ce théâtre sur les bras. Je peux utiliser cette expression.
Oui, oui.
Quel a été votre raisonnement, votre réflexion, tous ensemble et puis vous-même, pour qu'à la fin, vous deveniez le directeur du théâtre et que vous fassiez un véritable travail de directeur de lieu culturel?
En fait, le premier raisonnement, c'est qu'on s'est un peu tous retrouvés, famille, amis, et on a discuté ensemble de savoir comment on pouvait faire vivre ce théâtre sans mon père, parce que Il écrivait, il mettait en scène, il jouait parfois.
Avec ce hurlement, venant du fond du corps et du fond de la terre, venant des arbres, de l'air, des écorces de l'univers, et du fin fond de la cervelle en feu. Avec ce hurlement venant de tout, partout, qui me traverse et me secoue.
Du coup, c'était un héritage assez lourd à porter. Et on a tous déduit qu'il ne fallait pas qu'on reste dans que les pièces d'André Benedetto et qu'on trouve vraiment une ligne artistique et une voix en cohérence avec l'ADN du Théâtre des Carmes, théâtre engagé d'acteurs et de textes. Donc c'était vraiment ça qui a guidé petit à petit. Et puis après, avec Andriev, on s'est proposé à la direction pour essayer de faire avancer les choses, parce que c'est vrai que se retrouver à 10, 20, c'est peut-être pas facile au bout d'un moment de prendre des décisions. Voilà, ça s'est fait petit à petit. Et puis c'est vraiment un cheminement. C'était pas un plan de carrière, c'était vraiment naturellement que ça s'est fait comme ça.
Gérard Montagioli, j'ai le souvenir d'un spectacle mis en scène par Gérard Montagioli que j'ai vu dans ce qui est devenu la médiathèque Secano. C'était dans les années 70.
Il y avait Jappel à côté.
À l'époque, le théâtre du Chien qui fume n'existait pas.
Non, il n'existait pas.
C'était la compagnie, en fait.
Oui, c'est ça, la compagnie. On profitait du festival pour montrer un petit peu, quoi. C'est tout. Mais il n'y avait pas tellement d'ambition là-dedans, parce qu'on n'avait pas de lieu. On était plus que nomades, quoi. Je cherchais un lieu, pas pour faire un théâtre, hein, pas du tout. C'est ça le piège. Et c'est un beau piège, hein. Je cherchais un lieu pour répéter, c'est simplement ça. Et puis, c'est un Parisien qui est venu me voir un jour, Georges Méran, qui est un ami depuis, et qui m'a dit, voilà, j'ai trouvé ce lieu-là, vers la rue Guillaume-Puy, si tu veux venir voir, parce que moi, je voulais ouvrir un théâtre là, mais je sens que je ne vais pas y arriver, parce que je n'ai pas le temps, je suis à Paris, et c'est compliqué. Et je suis allé voir ce lieu, et quand je suis rentré, je vous jure, c'est vrai, hein, ce que je dis, j'ai vu le lieu comme il est aujourd'hui, je l'ai vu comme ça. Après, c'est...
Avec les escaliers et tout ?
Non, il n'y avait pas d'escaliers, tout ça, après, je l'ai dessiné, moi, comme genre... Je dessine mal, mais je dessine quand même. J'essaie de m'y retrouver dans mes dessins. Et puis alors là, je ne peux pas continuer à parler de ça, parce qu'après, c'était des années de galère.
Que diable allais-tu faire dans cette galère ?
Une méchante destinée conduit parfois les personnes.
Je ne pensais pas venir à Avignon, parce qu'on n'aimait pas Avignon, hein, pour le festival.
Serge Barbouchia.
Moi, j'étais Marseillais, et les Marseillais, on disait « Non, il ne faut pas venir au festival d'Avignon ». Et la première fois où je suis venu, en fait, j'étais invité au Chapeau Rouge. Et Pradinas, l'année où j'arrive, décide de se barrer parce qu'il se fâche avec Bernard Fèvre-Darcy. Je me retrouve au Chapeau Rouge avec d'autres compagnies à jouer dans ce théâtre qui était...
C'est très loin de la place Pignotte.
Voilà. Les premières années, je suis venu au festival, qu'au festival, pour jouer dans ce théâtre du Chapeau Rouge. Et là, après, le lien avec Avignon, j'ai dit, si je viens un jour sur Avignon, c'est pour être là à l'année, travailler. Je ne voulais surtout pas venir à Avignon et travailler qu'un mois par an pendant le festival. J'avais envie de quelque chose de permanent. Et du coup, j'ai cherché un espace, un local, exactement comme Gérard, pour pouvoir travailler. Donc, pareil, galère énorme. C'est-à-dire, je ne pensais pas que ça allait être un truc aussi dingue. Et je te rejoins, Gérard, dans le sens où, dès que j'ai vu ce local, dans un état lamentable, j'ai imaginé le théâtre tel qu'il est devenu. Mais j'ai mis des années pour arriver à le faire, parce que c'était colossal. Il y a des moments où c'était très dur. Les premières années, je me demandais chaque fois pourquoi je restais là, quoi. On travaillait sans chauffage.
Il faut que tu basses lorsque le jour se lève. Basse, on attend la relève. Basse, la montée de la fièvre. Basse, il faut que tu bosses.
Je ne sais pas comment on faisait pour tenir le coup, et on répétait dans des conditions épouvantables. Mais on y croyait. Quand les gens viennent aujourd'hui voir nos théâtres, ils n'imaginent pas le cheminement dans lequel on a été pour pouvoir amener ces espaces-là à devenir des vraies maisons de création. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont quand même des maisons de création.
Il parle de local, effectivement, on voulait un endroit.
Alain Timard.
Avec un toit, pour ne pas être en plein air, pour travailler notre art. J'entends, peut-être de l'extérieur, on le voit comme un art, mais nous, de l'intérieur, c'était un travail au quotidien, et c'était une nécessité absolue de pouvoir s'exprimer de la manière dont on voulait s'exprimer, et dans le rapport à la fois de transgression et en même temps de pérennité par rapport à un public et par rapport à une ville. En ce qui me concerne, cette pérennité, si je puis m'exprimer ainsi, je peux la dater des années 83-84 à peu près, avec la découverte du cloître Sainte-Claire et de la salle dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était effectivement ancienne imprimerie. Dans la transgression, on était quelquefois limite par rapport à la loi, hein. Ce lieu-là était en liquidation judiciaire par rapport à l'imprimerie et le liquidateur m'avait prêté les clés pour, je peux le dire maintenant, j'espère que ça ne va pas me pour regarder le local. Qu'est-ce que j'ai fait, évidemment ? Je suis allé tout de suite reproduire les clés pour déménager dans la nuit avec mes camarades.
Police, menottes, prison.
Je me dis, c'est là que ça va se passer. Donc on était dans la transgression parce que nourri de quelque chose, d'une construction en nous que l'on voulait établir. C'était aussi, en ce qui me concerne, un rapport au monde. C'est-à-dire que dans ce lieu, je voulais travailler et je voulais que le monde entier vienne. De par mes origines, j'avais envie que dans cette ville d'Avignon et dans ce lieu-là, sous ce toit-là, il y ait des gens d'Amérique du Sud qui viennent, d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Afrique, etc. J'avais cette volonté-là, ouais, une espèce d'ambition démesurée ou d'utopie démesurée, de faire en sorte que je travaille, certes, par rapport à eux, mais d'échanger avec le monde et que le monde vienne aussi dans ce lieu-là.
Allais-tu faire dans cette galère ?
Le feuilleton des scènes d'Avignon à suivre.